La maison de l'investisseur, l'émission qui vous explique comment développer votre patrimoine immobilier avec Stéphane Descartiers, président fondateur de la maison de l'investisseur sur Radio Immo.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Immo. Nous sommes ensemble pour notre rendez-vous mensuel, la maison de l'investisseur. Je partage avec plaisir ce plateau avec Stéphane Descartiers, fondateur de l'entreprise La Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Vous êtes tout de vert vêtu ?
Oui, bien sûr.
Vous nous annoncez le printemps qu'on attend avec grande impatience.
Il arrive enfin, oui.
On a hâte. En tout cas, pour ce dernier numéro de l'hiver, si je ne m'abuse, on va faire un focus, comme chaque quatrième mercredi du mois à 10h précises, un focus investissement qui permet à tous ceux qui sont intéressés par l'investissement immobilier de comprendre les rouages et les pièges, surtout, à éviter. Cher Stéphane, quelle est notre devinette du mois ?
Alors la devinette du mois, c'est l'encadrement des loyers, donc le plafonnement des loyers, comment ça marche et surtout comment les éviter.
Comment y échapper ? Eh bien on se retrouve juste après ça pour en parler.
La maison de l'investisseur, la devinette du mois.
Alors, l'encadrement des loyers, un sujet qui a fait beaucoup d'émules. Cette mesure, on le rappelle, concerne les villes, n'est pas nationale. Et c'est l'occasion pour les villes qui le souhaitent, hein, parce que c'est un choix volontaire, de déposer un dossier. La procédure administrative est complexe, il y a des critères à respecter. Et une fois que c'est validé par le gouvernement, on peut ensuite mettre en place ce fameux plafonnement des loyers. Donc, quelles sont les villes, cher Stéphane, qui sont concernées par ce plafonnement ?
Alors, aujourd'hui, donc, on a Paris et Lille déjà depuis plus de 5 ans. Il y avait eu un petit psychodrame au tout début, puisque ça avait été retoqué, puis remis. Bon, aujourd'hui, ça fonctionne, c'est plus remis en cause. Donc, à Paris et à Lille depuis 5 ans. Lyon et Villeurbanne donc sont passés déjà depuis quelques mois, et il y a donc tout un ensemble de communes aussi en région parisienne, proche couronne, Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen, etc. Une dizaine de communes également, notamment de 93, qui sont donc dans le périmètre maintenant de l'encadrement des loyers et vont suivre donc dès cet été Bordeaux et Montpellier.
Alors, on se souvient que Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen sont dans le département du 93. C'est le département le plus pauvre de France, quand même. Donc, est-ce que, parce qu'on remarque qu'il y a des villes effectivement plutôt aisées, plutôt riches, comme Paris, Bordeaux, Lyon. Et puis, à côté de ça, on a des villes comme Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen. Comment on explique cette...
On se l'explique peut-être par des raisons électoralistes, hein, en quelque sorte, puisque bon, il n'y avait pas forcément besoin dans ces villes-là. Bon, c'est vrai que Paris ayant ouvert la voie sur le plafonnement, finalement, on s'est rendu compte aussi que certaines villes limitrophes voyaient leur loyer augmenter, parce que notamment les investisseurs fuyaient Paris, donc se repositionnaient notamment en première couronne et donc pratiquaient des loyers un petit peu plus élevés. Donc les maires se sont dit, ma foi, on va aussi aller sur cette voie-là. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, hein, je pense. Hein.
Alors Emmanuel Wargon, c'est vrai que c'est très proche au niveau sonore. Emmanuel Wargon, notre ministre du Logement, va prendre un décret d'ici la fin de l'année.
Oui, tout à fait, pour avoir en plus sur les annonces maintenant, il faudra que les annonces fassent mention donc, du plafonnement des loyers. Pour bien montrer déjà, dès les annonces, que les propriétaires respectent donc les plafonds de loyer.
Alors, c'est-à-dire que demain, j'irai sur Se Loger, je clique sur une annonce d'appartement, au même titre que le DPE, je dois pouvoir trouver la mention si ce logement est
dans un périmètre d'encadrement des loyers. Donc, on se rend compte déjà que les annonces aujourd'hui, il y a plus de mentions légales que de mentions de l'annonce tout court. Hein. Donc on en rajoute. Bon, bientôt, les annonces vont faire une page entière avec tous les éléments réglementaires. Mais bon, c'est comme ça. En numérique, ça coûte moins cher que quand c'était du lignage sur le Figaro il y a 20 ans. Mais enfin, bon, voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, les annonces sont de plus en plus longues avec toutes les mentions légales obligatoires des DPE, maintenant des encadrements de loyer, etc., etc. Bon, c'est comme ça.
Juste, petite question un petit peu à côté, mais quand même importante, avec l'élection présidentielle qui arrive, est-ce que certains candidats remettent en question ce plafonnement ou c'est ancré et tout le monde souhaite le poursuivre ?
Bah, écoutez, je ne sais pas. Moi, pourtant, j'essaye d'ouvrir les oreilles au maximum pour que peut-être un ou deux candidats nous parlent de logement, mais non. Hein, je pense que, finalement, tout le monde est bien d'accord pour constater qu'il n'y a pas de... Le logement n'est pas un sujet pour les candidats. Bon, c'est vrai que c'est jamais que le premier poste de dépense, donc bon, on peut comprendre que effectivement ça ne les intéresse pas. En tout cas, ça intéresse les Français. Mais pour l'instant, les candidats, c'est le vide total, hein, quasiment sur le logement. Donc, j'espère que sur les quelques jours qui nous restent, on va un petit peu en entendre parler. Mais enfin, pour l'instant, c'est le grand silence. Hein.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges à ce sujet.
Non, malheureusement.
Alors, pour vous, Stéphane, c'est un constat d'échec, le fait de mettre en place le plafonnement des loyers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ?
Oui, c'est d'abord effectivement un constat d'échec, hein, plutôt que effectivement, puisque globalement, ces villes, ça veut dire que ces villes sont incapables de construire assez, puisque si les loyers ne cessent d'augmenter, c'est qu'il n'y a pas assez de logements, donc il n'y a pas assez de construction, il n'y a pas assez de rénovation. Et plutôt que de se remettre en cause en disant, bon, on va faire des efforts, on va libérer des friches, on va accorder des permis plus facilement, etc. On punit les bailleurs privés en limitant effectivement les possibilités de location. Et puis alors, pour construire aujourd'hui, c'est de pire en pire. Hein. Voilà, un promoteur me disait l'autre jour que il lui fallait en moyenne 4 ans entre la première présentation d'un permis de construire et la livraison des logements. Aujourd'hui, c'est 7 ans. Donc ça veut dire que, et attention, entre la première présentation du permis de construire, mais avant il y a 2-3 ans d'études, de négociations sur le terrain, etc. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les premières recherches d'un terrain, enfin même quand on a trouvé le terrain, les premières études pour un terrain, la livraison des logements, en France c'est 10 ans. 10 ans, donc c'est parfaitement
c'est
délirant, quoi. Hein, ça, c'est unique au monde également. Ce qui fait que même si on bouge aujourd'hui, l'effet sera dans 10 ans. Donc c'est incroyablement long, et c'est effectivement un constat d'échec pour toutes ces communes qui sont incapables de construire assez, et donc qui en arrivent effectivement au plafonnement et à l'encadrement des loyers, quoi.
Et la vague écologique dans les mairies n'a très certainement pas amélioré ça, le temps de délivrance pour les permis de construire. Je mets ça aussi en relation avec la sobriété foncière prônée par le gouvernement.
Oui, tout à fait.
Parce que l'idée, c'est quand même...
Oui, le zéro artificialisation des sols, etc. Donc, ça complexifie aussi l'histoire. Donc, c'est clair que... Alors, on est tous d'accord qu'il faut faire des efforts, mais ça complique encore le système, c'est clair.
Alors, pour comprendre et revenir au vif du sujet, le plafonnement, comment ça marche concrètement ?
Comment ça marche ? Bon, comme toujours en France, c'est extrêmement complexe. Hein. Donc, comment ça marche ?
Mais c'est pour ça que vous êtes là, cher
bien
Stéphane.
Sûr, tout à fait. Donc, comment ça marche ? Donc, la ville, donc, fixe par quartier, hein, c'est pas bien sûr sur toute la ville, c'est par quartier. Donc, un loyer maximum médian. Ici, dans vos beaux studios de Radio Immo, Ruret au Mur, donc c'est autour de 24 euros le mètre carré.
Mmh.
Voilà. Donc ça, c'est le loyer médian. Donc vous pouvez le dépasser jusqu'à 20% si vous êtes au-dessus de la moyenne des biens constatés dans le périmètre, c'est-à-dire que si vous avez un très bel immeuble, si l'appartement a été entièrement rénové, s'il est en parfait état, s'il a un très bon DPE, etc. Donc, s'il est quand même, et qu'on puisse quand même un minimum le prouver, donc qu'il soit au-dessus de la moyenne, donc vous pouvez aller jusqu'à 20% au-dessus du loyer médian.
D'accord.
Donc ça, c'est une première chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez également, si votre bien donc présente des caractéristiques donc exceptionnelles, vous pouvez demander et rajouter un complément de loyer.
Voilà. D'accord.
Complément de loyer. Donc
alors,
si Et c'est justement la notion d'exceptionnel qui va être un petit peu
difficile à définir.
Difficile à définir, etc.
Parce que j'allais vous poser la question, l'appréciation de ces caractéristiques exceptionnelles, elle relève du propriétaire, elle relève de qui ?
Elle relève de l'appréciation. Donc c'est bien un petit peu le souci.
Il y a un flou artistique.
Ouais, il y a un petit peu.
Alors
on
attend peut-être de la jurisprudence qu'elle tranche dans le cas de litige.
Ça va avancer comme souvent à coup de jurisprudence. Ce qu'on sait, ce qu'on a déjà compris et ce qu'on voit par rapport au fonctionnement pour l'instant, c'est que un balcon, c'est pas exceptionnel. Mmh. Bon, une terrasse, oui, une très belle terrasse, grande, etc. Mmh. Ça peut être un élément exceptionnel. La rareté de certains éléments de confort peut amener aussi quelque chose d'exceptionnel. Si par exemple, vous avez un parking sur l'île de la Cité, c'est exceptionnel, puisqu'il y en a quelques dizaines simplement sur l'île de la Cité, par exemple. Alors que dans le 15e ou le 13e, où il y a beaucoup eu de neufs, un parking, c'est pas du tout exceptionnel. Mmh. Vous voyez, donc c'est aussi...
C'est un peu la rareté aussi
La rareté d'une prestation que vous pouvez avoir sur le secteur. Un jardin, par exemple, à Paris, bon, c'est exceptionnel. Donc, voilà.
Et là, vous n'êtes pas du tout... Il n'y a pas de pourcentage. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, ce parking rattaché à votre appartement sur l'île de la Cité, là, je peux mettre vraiment le loyer que je veux ?
C'est ça qui est vraiment aussi étonnant. C'est que sur le complément de loyer, il n'y a pas de maximum.
D'accord, donc en gros, si je comprends bien, la loi exclut les biens luxueux, vraiment luxueux.
Oui, on peut dire qu'effectivement, si vous avez un bien tout à fait exceptionnel, vous pouvez aller bien au-delà du plafonnement de loyer. C'est-à-dire que ce qui change, c'est que avant, si vous aviez un bien exceptionnel, vous pouviez le louer beaucoup plus cher que le marché, tandis que maintenant, si vous avez un bien exceptionnel, vous pouvez le louer beaucoup plus cher que le marché.
Mais c'est plus compliqué.
Mais c'est beaucoup plus compliqué.
Mais c'est génial.
C'est ça.
Alors
c'est selon vous le génie
français.
C'est le génie français, effectivement, de la réglementation ubuesque qui fait qu'on arrive au même résultat, mais avec des trucs quand même très compliqués. Parce qu'attendez, Charlotte, je ne vous ai pas tout dit.
Tout dit.
Parce qu'effectivement, on a déjà... C'est là aussi où le génie français des usines à gaz est quand même absolument remarquable. C'est-à-dire qu'on a déjà prévu des instances et un parcours de contestation. Voilà, de ce complément de loyer. C'est-à-dire que vous rencontrez un propriétaire qui a un bel appartement, donc vous acceptez son complément de loyer, puisque le bien est quand même exceptionnel, donc vous rentrez dans les lieux. Mais là, vous avez, et tout est prévu, tout est écrit, effectivement, la procédure, donc vous avez 3 mois pour saisir la commission départementale de conciliation pour dire que vous êtes un gentil locataire, puis le méchant propriétaire, il vous a un peu forcé la main. Donc le complément de loyer ne vous convient plus, malgré le fait que vous ayez signé, etc. Ou le jardin, effectivement, finalement, il n'est pas si exposé que ça. Ou alors il y a des vers de terre et vous n'aviez pas prévu ça. Ou des insectes, parfois aussi, ça peut être un peu... Voilà, donc finalement, le jardin, il n'est pas si bien que ça. Donc vous contestez, vous avez 3 mois pour contester donc, vos compléments de loyer. Donc là, c'est au propriétaire de se battre, déjà dans une procédure pour dire, regardez, etc.
Alors, on rappelle juste pour nos auditeurs que la commission paritaire, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, la commission départementale de conciliation, qui est paritaire, donc avec des représentants des locataires et des représentants des associations de bailleurs. Et c'est un préalable, généralement, au judiciaire.
Oui, tout à fait. Donc, voilà, donc on est embarqué dans une joyeuse procédure. Et alors, donc là, on a 2 cas.
Ce qui est génial, c'est que ça se fait a posteriori de l'entrée dans les lieux.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que, il me semble, je crois pouvoir dire sans me tromper, que c'est déjà le cas pour le plafonnement de loyer tel qu'il existe. C'est-à-dire qu'un locataire qui rentre, le propriétaire n'avait pas respecté le plafonnement, il peut saisir dans les mois qui suivent.
Pour faire appliquer le plafonnement.
Absolument. Donc en gros, le locataire ne prend aucun risque.
Absolument, il est très bien protégé, comme toujours. Bon, c'est pas d'une injustice totale. C'est le cas, notamment depuis le bail de 89. C'est comme ça. Le locataire est très protégé. Donc là, il est aussi tout à fait bien protégé. Donc avec cet encadrement des loyers.
Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accord ?
Vous allez donc à la commission départementale de conciliation. Donc de deux choses l'une. Soit vous parvenez à un accord, donc le propriétaire accepte, donc qu'il y ait une réduction du complément de loyer ou un abandon du complément de loyer. Et donc, à ce moment-là, bah, le loyer est recalculé avec suite à un accord entre les parties, donc pour qu'on puisse arriver effectivement. Par contre, vous êtes remboursé de vos premiers loyers que vous avez payés.
Il y a rétrocession depuis le début du bail.
Tout à fait, c'est rétroactif au début du bail. Voilà. Donc ça, c'est si vous arrivez à un accord. Donc, mais si le désaccord persiste, hein, malheureusement. Mm-hmm. Donc le locataire a 3 mois à partir de la réception de l'avis de la commission, donc si elle est pas, lui est pas favorable, pour demander donc, au juge des contentieux de la protection du tribunal, donc, mm-hmm. seconde effectivement, instance pour essayer d'arranger les choses. Et donc à ce moment-là, il demandera donc soit d'annuler ou de diminuer également le complément de loyer. Donc si c'est pas accordé par la commission de conciliation, ça va au juge des contentieux. Bon là, ça peut durer encore des semaines ou des mois, mais voilà. Donc pour arriver donc à se mettre d'accord ou pas quoi.
Donc si j'ai bien compris, pour résumer, ouais. Complément de loyer, donc c'est la partie qui concerne le complément que je peux affecter si mon logement a des caractéristiques exceptionnelles. Donc on est quand même sur une catégorie aussi de population et de biens assez rares, oui, qui ne représentent pas la majorité des logements. Soit je vais en commission de conciliation et nous parvenons à un accord amiable, et auquel cas tout le monde repart chez lui bien content. Soit s'il n'y a pas d'accord entre les parties, là je vais
au juge des contentieux
et le juge tranchera pour les parties.
Tout à fait.
On est bien d'accord.
Tout à fait.
Eh ben dis donc, effectivement, il faut pas être allergique aux procédures.
Non, mais c'est la France, hein. C'est ça la France.
Alors bon, ben on a bien compris ce que c'était que le plafonnement, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui se passait. Maintenant, ce qu'on veut savoir sur les minutes qui nous restent, c'est les solutions. Comment je peux échapper à ce plafonnement de loyer ?
Alors, il y a deux solutions qui sont assez peu connues finalement, mais qui existent. Et le principe pour ces deux solutions va être d'échapper au bail 89. Bail 89, donc on en parlait du 6 juillet 89, donc qui régit effectivement les accords, enfin en tout cas les relations entre propriétaires et locataires, pour les particuliers lorsqu'il s'agit de leur résidence principale. Donc ça vous ouvre effectivement des possibilités d'être à ce moment-là, d'échapper au bail 89 et de rentrer dans ce qu'on appelle un bail civil. Donc il ne sera pas un bail 89. Donc quand est-ce qu'on pourra actionner un bail civil ? Donc il y a deux cas précis. Le premier, c'est que si vous ne louez non pas un particulier, mais si vous louez à une entreprise qui va utiliser ce logement pour loger ses cadres, pour loger ses employés qui vont faire des missions à droite, à gauche, ou venir régulièrement au siège pour se former. Nous-mêmes, par exemple, mes investisseurs, on a des filiales en région. Bah, quand nos directeurs collaborateurs viennent se former à Paris, bah, il nous arrive de louer, on loue en permanence un ou deux studios, parce que ça coûte beaucoup moins cher que l'hôtel, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est de louer à une entreprise. Et si vous louez une entreprise, ben vous échappez au bail 89. Là, c'est un accord libre entre les parties.
Petite question, Stéphane. Est-ce que si je loue en meublé...
Oui. En meublé ou pas, peu importe.
Je ne suis pas loi de 89 en meublé à un particulier. Je suis rattaché aux mêmes conditions de plafonnement.
Meublé, effectivement, vous êtes aussi en soumis au plafonnement. Les plafonds sont un petit peu plus élevés en meublé, mais vous êtes soumis pareil. Tandis qu'effectivement, là, à une entreprise... Une entreprise a plus de moyens qu'un particulier, elle n'a pas besoin de la même protection qu'un particulier. Donc une entreprise, effectivement, n'est pas, si vous louez une entreprise, vous n'êtes pas concerné par le plafonnement des loyers. Bon, bien entendu, les entreprises n'ont pas vocation à signer n'importe quoi non plus et à des conditions totalement hors marché, bien entendu. Et c'est également, il faut le reconnaître, c'est un petit marché. L'allocation à des entreprises concernant, comparativement effectivement à l'allocation à des particuliers pour en faire leur résidence principale, c'est un petit marché mais qui existe, qui existe notamment dans les grandes métropoles ou dans certaines régions pour louer, pour loger des cadres en déplacement ou alors des cadres qui sont là pour X mois ou un an, deux ans, par parfois les entreprises mettent ça dans le bouquet de la mariée pour faire venir effectivement tel ou tel collaborateur. Elle lui offre entre guillemets le logement, parce que le collaborateur c'est un avantage en nature aussi pour lui. Mais bon, voilà, donc ça existe, il y a un marché, ça concerne différents types de logements, depuis le studio jusqu'au très bel appartement pour un top manager, etc. Donc ça concerne des types de logements tout à fait différents, mais c'est un marché qui existe effectivement, le bail civil aux entreprises.
D'accord.
Ça, c'est la première solution.
Et avec le Covid et le télétravail, justement, ce marché-là, j'imagine qu'il y a moins d'expatriés, par exemple, dans les villes comme Paris, par exemple, où on fait moins venir des gens du monde entier, justement, pour assurer des fonctions au sein des entreprises. Il n'y a pas eu de baisse sensible de demande sur ce type
non,
de biens.
Non, enfin, nous, on ne l'a pas vraiment vu. Enfin, il y a moins. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura moins de tourisme d'affaires, c'est-à-dire de gens qui viennent pour 2-3 jours visiter leurs collaborateurs. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus par visio, etc. Ça, tout le monde l'a bien compris. Là, lorsque une entreprise va louer un logement, c'est parce qu'elle a un besoin de plus long terme. Un besoin de X mois ou de un an ou deux. Et donc, ce besoin-là, en tout cas, nous, on n'a pas vu qu'il était moins important. Et a priori, il devrait continuer effectivement à exister. Oui, tout à fait.
D'accord, donc ça c'est ma première solution.
Oui, tout à fait, première solution.
S'agissant de la deuxième.
Alors, deuxième solution, c'est effectivement, là vous pouvez louer un particulier, mais, puisque le bail 89, il faut louer un particulier pour une résidence principale, donc là vous m'avez compris, donc vous pouvez louer un particulier, mais si ce n'est pas sa résidence principale, donc vous échappez également au plafonnement des loyers. C'est-à-dire que s'il s'agit de sa résidence secondaire, ou d'un pied-à-terre qui ne sera pas sa résidence principale. Vous parliez tout à l'heure du télétravail. Effectivement, il y a de plus en plus de cadres effectivement, qui font du télétravail, donc qui n'ont plus besoin d'être toute la semaine à Paris, à Lyon, à Bordeaux, donc qui vont avoir la maison à une heure ou deux de la grande métropole, prendre le train ou la voiture, effectivement, enfin télétravailler une bonne partie de la semaine, mais quand même venir dans leur bureau une nuit, deux nuits par semaine, donc deux ou trois jours par semaine. Donc là aussi, plutôt que de payer de l'hôtel, certains vont être, donc vont préférer, y compris pour laisser des affaires, des costumes, etc., enfin que sais-je, donc vont préférer louer un petit appartement, un studio, un petit deux pièces, etc. Donc là, ce ne sera pas leur résidence principale, ou alors quelqu'un qui veut effectivement avoir un appartement à Bordeaux ou à Paris, pour lequel il vient de temps en temps, quand bon lui semble, ou etc. Il y a aussi ce marché-là qui existe, un petit marché, mais qui existe.
Oui, parce que c'est ce qu'on imagine bien, c'est que ça ne représente pas la majorité de la demande. Hein.
Bien sûr.
Ça reste du marché secondaire.
Tout à fait. En revanche, le pied-à-terre, ça, c'est une demande qui est de plus en plus importante, hein, notamment. Donc, et un pied-à-terre dans lequel on va passer 2-3 jours par semaine, donc ce n'est pas sa résidence principale. De toute façon, sa résidence principale, elle est là où on vit avec sa femme, son mari, ses enfants, etc. Et donc, le pied-à-terre dans la grande métropole, donc ce n'est pas sa résidence principale. Donc, auquel cas, effectivement, on peut, bah, en tout cas, le propriétaire peut donc échapper, n'est pas soumis donc à ce au bail loi 89, mais on est en bail civil et on peut faire effectivement absolument ce qu'on veut. On n'est pas soumis aux mêmes contraintes. Et ça va bien au-delà du plafonnement des loyers. Hein. Sur un bail civil, vous pouvez mettre la durée que vous voulez. Ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans, puisque le bail 89, c'est 3 ans ou 6 ans pour une SCI, une personne morale. Donc ça peut être des durées tout à fait différentes. On peut décider de demander 6 mois de caution. Si vous avez de très beaux meubles, des chaînes, etc. Un an de loyer d'avance, ça peut aussi se pratiquer, etc. etc. Donc c'est un accord libre entre les parties, qui est donc beaucoup moins contraignant que le bail 89. Donc c'est un accord libre entre les parties. Alors il faut que ça corresponde aussi à une demande et à un besoin. Vous n'allez pas demander n'importe quoi pour une résidence secondaire ou en louant une entreprise. Il faut que ça corresponde à un besoin du marché, etc. Mais enfin, en tout cas, pour les bailleurs qui sont allergiques aux procédures ultra complexes et qui sont allergiques donc notamment au plafonnement, à l'encadrement des loyers, voilà, il y a ces deux solutions qui passent les deux par un bail civil, donc qui évite le bail 89, donc louer une entreprise ou louer en tant que résidence secondaire ou pied-à-terre, en tout cas pas résidence principale.
Eh bien, écoutez, Stéphane, on vous remercie pour ces petits tuyaux. Malheureusement, c'est l'heure de se quitter. C'est fini pour aujourd'hui, la Maison de l'Investisseur. Merci à la technique. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve le mois prochain pour le prochain numéro de la Maison de l'Investisseur. On compte sur vous et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker. À très bientôt sur Radio Immo.
La Maison de l'Investisseur. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.